Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Binge Audio, fabricant de podcasts depuis 2015.
Salut, c'est Thomas Rozek. Alors que c'est ce dimanche 12 juin que vous êtes toutes et tous attendus dans votre bureau de vote préféré pour aller élire celui ou celle qui, pendant les 5 prochaines années, sera votre député, il nous paraissait tout à fait opportun de vous proposer un nouvel épisode de Y'a pas mort d'homme, notre série documentaire qui explore, comme vous le savez tous les mois, la vaste question des violences sexistes et sexuelles en politique, un sujet plus que jamais d'actualité. Cette série, elle est portée par mes camarades Hélène Goutani et Fiona Texer, qui sont respectivement, je le rappelle, journalistes et collaboratrices d'Élus. Cet épisode, c'est le 7e, c'est Elisa Grenet qui le réalise, et on va y parler justement de vote. Bienvenue dans Programme B.
Après la présidentielle, les médias et les partis sont dans la course aux législatives. Est-ce que les gauches vont s'allier ? Tel candidat d'extrême droite dont on va pas prononcer le nom va-t-il se présenter ? Et où ? Est-ce qu'on va avoir autant de femmes que d'hommes à l'Assemblée ? Est-ce qu'on aura enfin une présidente de l'Assemblée nationale ? Chacun compte ses billes et les petits calculs vont rentrer.
Entre ces deux élections, on va vous parler ni popole ni tambour. En tant que femme, blanche, diplômée, vivant dans une agglomération de plus d'1 million d'habitants se déplaçant à vélo et flexitarienne, on s'est demandé, mais pour qui donc votent les femmes ?
Est-ce qu'il existe une sociologie électorale féminine, comme un vote ouvrier, de patron, de breton, de vieux, de classe moyenne ? Et comment on l'analyse, de l'université jusqu'à l'institut de sondage ?
Ces jeunes femmes-là, sans doute, seraient capables de penser à nous les femmes, un nous les femmes éventuellement intersectionnelles d'ailleurs, souvent, sûrement intersectionnelles.
C'est très intéressant de voir que des fois l'ennemi de la femme est la femme.
En pratique, on sait bien que les électeurs ne regardent pas trop les programmes en fait.
Épisode 7.
Ce que votent les femmes.
Alors qu'il n'y a pas mort d'homme.
Crédité de 8% dans les
sondages. Sondage Soprasteria, La Provence, France Info, France Bleu.
Prévu dans les sondages.
Les sondages
d'intention de vote.
Les sondages, ce sont les grands mal-aimés de toute campagne politique qui se respectent. Tel candidat les rend responsables de son échec, tel autre critique l'échantillon qui ne serait pas assez représentatif. Et à chaque campagne, ces fameux instituts sont décriés aussi par les journalistes. Et pourtant, qu'est-ce qu'on aime les consulter ?
Emmanuel Macron est à 26, il perd un demi-point, Marine Le Pen est à 24, elle ne bouge pas.
Cette année, il y a une nouveauté dans les commandes passées aux sondeurs. Car oui, chaque sondage est commandé par un média, un parti, un lobby, une entreprise. Et cette fois-ci, certains se sont demandé... En politique, que veulent les femmes ?
C'était un enjeu. Emmanuel Macron, en 2017, l'avait
déclaré, enfin mis au rang de premier enjeu du quinquennat.
Louise Jussian, chargée d'études au département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP.
Donc c'était un sujet pour cette campagne-là assez évident, que ce soit pour les acteurs médiatiques, les acteurs politiques ou les instituts de sondage. C'est vrai qu'on n'avait pas cette problématique en 2017 ni avant, parce que depuis les années 80, le vote des femmes était globalement semblable à celui des hommes. À une exception près, c'était l'hostilité des femmes à l'égard de l'extrême droite. Hostilité qui s'est effacée, on va dire, en 2017 avec la candidature de Marine Le Pen. Et la candidature d'Éric Zemmour, là, en 2022, a réactivé ce clivage-là, justement, entre hommes et femmes.
Mais à la différence d'autres catégories, les ouvriers, les cadres, le vote féminin ne s'exprime pas d'une seule et même voix.
Généralement, quand on... Soit on fait un terrain femme, donc là, on est vraiment que sur les femmes, parce qu'on sait qu'elles ont... Enfin, c'est pas que les hommes, c'est pas un sujet, je pourrais pas dire ça. Mais c'est l'opinion des féminines est traversée par plus d'enjeux et peut-être un petit peu plus fluctuant dans le sens où les femmes ont quand même toujours une position dominée dans la société. Enfin, je pense pas dire d'aberration en disant ça. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on a tendance à s'attarder plus sur le vote des femmes. Mais par contre, on fait souvent la comparaison en fait. Soit on prend les femmes, on compare à l'ensemble des Français, donc hommes et femmes mélangés. Soit on prend les femmes et on compare aux hommes. C'est ça qui nous permet de dire en fait qu'il y a ou pas un électorat féminin, qu'il y a ou pas des spécificités, sans le comparant tout simplement au vote des hommes. Enfin, ou à l'opinion des hommes de manière générale.
Et lorsqu'il soumet un questionnaire, le sondeur va demander à la personne au bout du fil de classer ses préoccupations, de la plus importante à la plus anodine.
Alors, la santé, c'est la première préoccupation de tous les Français, pour les femmes encore plus, parce que c'est vrai que traditionnellement, les femmes sont plus intéressées par cette thématique-là. On pourrait croire du coup que sur le droit des femmes, elles seraient aussi intéressées et que ce serait un élément important dans leur vote. On se rend compte que pas du tout, quand on propose une liste d'items, donc on ne les met pas en concurrence, mais une fois qu'on fait une hiérarchie sur ces items, on se rend compte que le droit des femmes arrive en avant-dernière ou dernière position. On a grosso modo environ 47 à 48% des Françaises qui considèrent l'enjeu du droit des femmes comme déterminant pour leur vote, alors que sur la santé, on est dans des proportions du 70%. Donc c'est pas un sujet qui intéresse, qui détermine du moins le vote des femmes. C'est très intéressant, à une exception près, les très jeunes femmes, donc les 18-24 ans, pour le coup, c'est avec l'environnement leur préoccupation principale.
Les droits des femmes ne sont plus un non-sujet, mais vous qui suivez cette série depuis 7 épisodes, vous le savez, la politique est toujours un univers viriliste, une affaire de mâle, tant sur la forme que sur le fond.
Dans l'institution politique, il y a énormément de choses qui sont implicitement genrées au masculin.
Frédérique Matonti enseigne la science politique à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle a travaillé sur les questions de genre en politique.
La fonction, à commencer par la fonction présidentielle. Hein. La fonction présidentielle, on est chef au masculin des armées, toutes ces fonctions qui sont des fonctions régaliennes. Donc, tout ceci, alors dans la rhétorique, hein, dans ce qui est un des modes de présentation en politique, la façon de se présenter, de parler, etc., c'est quand même implicitement lié à des compétences masculines, avoir de la voix, etc., savoir la poser, pouvoir élever la voix, puisqu'on parle des législatives, Mélenchon, c'est un spécialiste de cette incarnation masculine du tribun, alors que dès qu'une femme va parler, alors on l'a vu de manière caricaturale là, sur Pécresse pendant la campagne électorale, mais dès qu'une femme va parler, on va lui reprocher d'avoir la voix trop criarde, trop haute, mal posée. Alors souvent, on ne règle pas bien les micros. Hein, là, on est dans une radio, donc vous savez qu'on peut faire des tas de choses. Souvent, on ne règle pas bien les micros.
Dans ce contexte, affirmer sa féminité n'est pas chose aisée. Beaucoup de femmes ne s'y risquent pas, arborant une coupe de cheveux sobre, des tailleurs sombres. Mais depuis une quinzaine d'années, certaines osent mettre en avant leur genre.
La première femme qui véritablement en politique dit « je suis féministe » et qui se présente comme telle, c'est Ségolène Royal, dans la campagne de 2007. Mais avec un féminisme qui est un féminisme maternaliste, un petit peu, enfin si on allait vite, on pourrait dire un petit peu essentialiste. Elle insiste sur le fait qu'elle est une mère, enfin il y a vraiment tout ça. Mais en même temps, elle le fait quand même. Elle le fait, elle est très attaquée là-dessus.
Et la seule femme à ne pas pâtir de son sexe, c'est la candidate du Rassemblement National. Une spécificité qu'avait souligné Edith Cresson, qu'on avait rencontrée pour l'épisode 1.
Je me suis demandé si c'était nécessaire d'être fasciste pour échapper à ce genre d'outrage. Hein. C'est très curieux. Son caractère féminin n'est jamais quelque chose qui est utilisé contre elle.
Protégée des attaques sexistes, Marine Le Pen a aussi su conquérir et solidifier un électorat féminin. Ce vote réactionnaire trouve des explications multiples parmi une population qui appartient aussi à un prolétariat de service. Caissière à temps partiel, femme de ménage, en somme les premières de corvée.
Comme les femmes sont un peu plus croyantes que les hommes, un peu plus catholiques, notamment il y a un peu plus de pratiques catholiques, même si on est sur des choses résiduelles, que les hommes, pendant longtemps, le vote catholique, le fait d'être catholique, a empêché les femmes de voter pour le FN. Dans les années récentes, c'est en tout cas ce que montre Anna Meyer, ce que montre Christelle Lagier aussi, les choses ont changé. C'est-à-dire que le vote catholique aujourd'hui n'a plus le même sens qu'il avait il y a encore quelques années, puisque le vote la question religieuse s'est beaucoup crispée autour évidemment des musulmans. Et donc on peut avoir un vote catholique qui est un vote réactif contre les musulmans et par conséquent pouvoir voter pour Marine Le Pen dans ce cas-là. Donc ça revient à réduire l'écart entre les hommes et les femmes. Et puis, il y a un autre facteur. Beaucoup de femmes qui votent pour Marine Le Pen, alors il y a la dédiabolisation, même si tout ça est un peu dérisoire, mais un des facteurs qu'on aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans des métiers précarisés, employées avec des temps partiels, qui se vivent comme des... et qui le sont, comme des victimes de la mondialisation, et qui peuvent avoir ce réflexe de vote pour Marine Le Pen, ce qui explique que l'écart soit aujourd'hui, je crois qu'il est d'un point 5, j'ai pas regardé là sur la dernière élection, mais ça doit être à peu près ça. Donc il n'y a plus d'écart de ce point de vue-là. Mais encore une fois, c'est pas un vote en faveur d'une femme.
Parce que les femmes, comme tout le monde, sont le produit de la société dans laquelle elles évoluent.
En 2017, Marine Le Pen, elle a réussi à effacer ce gender gap, justement. C'est-à-dire que les femmes votaient autant pour l'extrême droite que les hommes. Et puis, il y a eu Éric Zemmour en 2022. Et là, pour le coup, réactivation du gender gap, notamment à l'extrême droite, puisque les femmes votaient beaucoup moins entre... Donc au début de la campagne, on avait 10 points d'écart entre les hommes et les femmes sur les intentions de vote pour Éric Zemmour. À la fin, ça s'est un petit peu amoindri parce qu'il y avait des dynamiques de vote utile aussi qui se sont mis en place.
Et c'est bien le candidat du parti d'extrême droite, Reconquête, qui a facilité la tâche de Marine Le Pen dans son entreprise de dédiabolisation. Opération Petit Chat face au programme Remigration, et pourtant les valeurs, ça reste les mêmes.
Marine Le Pen, elle bénéficie du fait qu'elle n'est pas son père, toujours. C'est-à-dire que les femmes, on va les ramener au fait qu'elles sont les filles d'eux, les femmes d'eux, les compagnes d'eux, qu'elles sont moins compétentes, qu'elles sont trop douces pour faire de la politique, etc. Donc tout ce qui affaiblit les autres femmes, c'est au contraire ce qui... elle lui permet de se détacher de son père. Et donc ça joue pour elle d'un certain point de vue. Inconsciemment, ça joue pour elle.
Le conservatisme des femmes n'est pas un sujet nouveau. C'est même ce sur quoi tablait le général de Gaulle en 1944. Après 150 ans d'injustice, il concède le droit de vote aux femmes. Et il a bien compris qu'elles voteront comme les curés et pas comme les cocos.
Pendant longtemps, les femmes ont voté comme leur mari. Donc, c'était la profession du conjoint qui presque déterminait l'orientation du vote. Et si le vote des femmes était globalement plus à droite, c'était aussi par un phénomène démographique. En 44, vous avez plus de femmes que d'hommes. C'est lié aux pertes démographiques de la Première Guerre mondiale, mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Ces femmes sont plus âgées en moyenne que les hommes, et plus souvent catholiques, etc. Et ont un vote plus conservateur. Mais bon, vous voyez, c'est des phénomènes. C'est pas le fait d'être une femme qui fonctionne là, c'est d'autres choses qui fonctionnent. C'est le fait d'avoir été isolée, c'est le fait de ne pas avoir travaillé, c'est le fait d'être, comme on dit en sociologie, d'avoir une intégration sociale moins grande.
Mais les femmes ne sont pas plus à droite parce qu'elles sont femmes.
Le genre joue extrêmement peu sur le vote. Il joue d'ailleurs toujours pas, le genre ne joue toujours pas sur le vote. C'est véritablement d'autres facteurs qui fonctionnent. C'est la catégorie socio-professionnelle, c'est l'ancrage géographique, c'est le lieu de résidence.
Et puis, les comportements électoraux des femmes et des hommes se rapprochent.
Il y a eu le tournant des années 80, avec notamment l'élection de François Mitterrand. Et pour le coup, les femmes votaient autant à gauche que les hommes et participaient autant que les hommes. Donc on avait une forme d'équilibre qui s'était créé, à une exception près, toujours l'extrême droite, c'est-à-dire que les femmes étaient très très hostiles à l'extrême droite, notamment à Jean-Marie Le Pen après, c'était vraiment un candidat des hommes.
Depuis quelques années, on observe de nouveau des spécificités du côté des femmes. Un rapport différent à l'extrême droite, on l'a dit, mais aussi une abstention en hausse.
c'est a priori une participation moindre sur les élections intermédiaires. Sur la présidentielle, on est sur le même niveau de participation, mais sur une participation moindre sur les élections locales notamment. On avait remarqué depuis les élections municipales et régionales, les dernières, donc en 2020 et 2021, qu'il y avait eu moins de femmes qui votaient. Donc on voit que le vote des femmes, c'est un vote qui reste fragile, parce que voilà, donc les municipales et régionales, record d'abstention, parce que Covid, parce que plein de choses. Et en fait, les premières à tomber dans cette abstention sont les femmes.
Comme souvent, les femmes ne se sentent pas pleinement légitimes à s'exprimer.
Il y a un mécanisme d'autocensure, de toute manière, des femmes dans plein de secteurs, que ce soit professionnel ou même prendre la parole en public ou avec des amis, débattre, etc. Les femmes se sentent, ont tendance, du moins, à se sentir moins compétentes. Je pense que pour la politique, c'est quelque chose qui est aussi le cas et qui transparaît, en fait, dans leur intérêt moindre. Elles disent qu'elles s'intéressent moins, mais c'est peut-être parce qu'en fait, elles se disent ça ne me parle pas, on ne me parle pas à moi, il y a moins de femmes, enfin... Maintenant, il y en a, mais ça reste quand même un milieu très masculin. Et ce truc de toute façon, je n'y comprends rien. Après, c'est un rapport que beaucoup de Français ont à la politique, hein, de dire « moi, j'y comprends rien, la politique, je sais pas, ça m'intéresse pas ». Mais c'est quelque chose qui est plus fort chez les femmes.
La question qu'on est tenté de se poser, c'est est-ce que les femmes s'intéressent moins à la politique que les hommes parce que la politique s'intéresse moins à elles ? Presque tous les journaux ont scruté les droits des femmes dans les programmes comme l'économie, le climat, la sécurité. Sur le papier, dans les interviews, on a presque l'impression que toutes les candidats et tous les candidats, sauf un, étaient en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais quand on regarde dans le détail, qu'est-ce qu'on voit ?
Il y a aussi une manière de faire du washing un peu.
Frédéric Matondi s'est plongé dans le magazine Elle.
Elle a interrogé toutes les femmes, tous les candidats et toutes les candidates. Il n'y en a pas un, sauf un tout petit peu Zemmour, mais enfin vraiment en creux, il s'en défend. Il n'y en a pas un pour, évidemment, ne pas dire féministe. C'est-à-dire c'est obligatoire dans la présentation de soi de se dire féministe. Quand on regarde ce que ça recouvre pas grand-chose. Aujourd'hui, vous n'avez pas un candidat qui n'a pas dit qu'il était favorable à l'égalité des salaires. La question, sauf Zemmour, bon, mais voilà. La question, c'est comment on fait. La question n'est jamais véritablement bien posée. Comment on va faire pour faire cette égalité des salaires? C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. Et puis, je ne sais pas si vous avez été frappé comme moi, mais quand on regardait là les négociations entre les partis de gauche, il n'y avait plus une femme, hein. Alors, elles étaient sur la tribune, hein, et il y a eu des investitures qui, de ce point de vue-là, sont... Mais quand on regardait les négociateurs, il n'y avait pas une femme. C'était extrêmement frappant, quand même. C'est-à-dire, quand on arrive dans le dur, c'est quand même les hommes qui sont là, quoi.
Et ils entendent le rester.
On a surtout eu droit, pour l'instant, à un discours de backlash. C'est-à-dire, plus les femmes sont apparues dans l'espace public, et plus il y a eu un discours... de retour à l'ordre des sexes, en fait. C'est-à-dire qu'on est encore dans une période. On va voir si l'élection change quelque chose. Mais bon, honnêtement, je ne crois pas. Enfin, je l'espère, mais je ne crois pas. Zemmour, on peut dire, d'un certain point de vue, c'est une réaction au bouleversement, au fait, à l'apparition des femmes dans l'espace public. C'est une réaction à tout ce qui peut se passer dans la montée du droit des gays, des lesbiennes, des LGBT, etc. Le fond de l'air est extrêmement conservateur, y compris pour les femmes. Il y a eu quand même des rappels à l'ordre absolument constants. Il faut qu'il y ait des femmes, évidemment. Mais en soi, le fait d'être une femme n'assure pas que ces femmes vont être féministes. Alors, bien sûr, on ne peut pas se comporter de la même manière quand on est dans une assemblée où il y a autant de femmes que d'hommes et quand on est dans une assemblée où il y a 10% de femmes. Ça, c'est sûr que ça... Il y a des comportements qui ne passent pas. Mais ça ne change pas forcément le contenu des politiques.
Dans cette première campagne présidentielle post-MeToo, les droits des femmes n'ont pas eu l'écho espéré.
Pourquoi les hommes et les femmes politiques ne s'en saisissent pas ? Peut-être parce qu'ils ont dû voir justement que ce n'est pas là-dessus que les femmes vont baser leur vote. Les hommes non plus, d'ailleurs. Et donc, pour eux, c'est un sujet sur lequel il faut en parler. Donc, ils en parlent, mais c'est jamais central dans un programme. Ils savent très bien que, un petit peu, quoi qu'ils disent, ça ne va pas être discriminatoire, ça ne va pas braquer une partie de l'électorat.
Au fond, les femmes ne croient pas plus en elles-mêmes que les hommes.
Je pense qu'il y a encore un plafond de verre qui est ressenti par l'électorat féminin sur le fait d'avoir une femme à l'Élysée un jour. Donc là, finalement, c'était la campagne où il y avait le plus de femmes candidates, surtout à la tête de grands partis. Enfin, grands partis, qui ont fait des petits scores, mais qui sont historiquement de grands partis. Donc, le Parti Socialiste et les Républicains, c'était deux femmes, c'est assez historique. On avait aussi Marine Le Pen et Nathalie Arthaud, pour ne pas l'oublier. C'est vrai que finalement, c'était le moment ou jamais d'avoir cet espoir-là, mais cet espoir n'a pas été attisé par le fait aussi que dans les sondages, on voyait que c'était des candidates qui étaient quand même basses, à part Marine Le Pen. Et généralement, Marine Le Pen, bon, les femmes votent plus pour elle, là, à cette occasion-là, mais c'est quand même pas la candidate présentée, pressentie du droit des femmes. Donc, c'est pas la c'est quand on pense une femme à l'Élysée, je suis pas sûre qu'on pense Marine Le Pen, et c'est ce que les femmes ont dit d'ailleurs, donc parce qu'elles savaient en plus qu'Emmanuel Macron était largement en tête dans les sondages, donc je pense que ça participe aussi au fait de ne pas y croire, entre guillemets.
Ce phénomène était déjà observé lors des campagnes présidentielles aux États-Unis. En 2016, Hillary Clinton, candidate malheureuse face à Donald Trump, n'a pas pu compter sur le vote des femmes. Certains pensaient que, comme Obama a été massivement soutenu par l'électorat noir, Clinton pourrait bénéficier des suffrages des femmes. Raté, les femmes ne se pensent pas en tant que communauté, elles ne votent pas d'une seule femme. Clinton elle-même en avait conscience.
Les femmes sont soumises à une pression énorme, principalement les femmes blanches. Elles subissent d'énormes pressions de la part de leurs pères, de leurs maris, de leurs petits amis et de leurs employeurs masculins. Tout ça pour ne pas voter pour la fille.
D'autant plus que, pour Louise Jussion, les femmes sont parfois à l'arrière-garde sur les questions de société.
Les femmes sont beaucoup plus conservatrices, beaucoup plus réactionnaires, parce qu'elles sont finalement très imprégnées de cette culture patriarcale encore, et elles réagissent encore selon cette société, selon ce que le patriarcat dit aux femmes. Et donc c'est très intéressant de voir que des fois, l'ennemi de la femme est la femme. Après, il y a des tranches d'âge aussi, il y a une question générationnelle qui rentre fortement en compte, mais c'est quelque chose qu'on ne voit plus trop sur le vote, mais qu'on voit sur les questions de société notamment, qui est très intéressante.
Même si la troisième vague du féminisme génère une prise de conscience de plus en plus massive, les femmes ne sont pas un ensemble homogène. Dans une société encore profondément patriarcale, si on ne renverse pas la table, l'offre politique ne fait que s'aligner.
Il y a une aspiration chez un grand nombre d'électeurs, une majorité même sans doute,
Frédéric Matonti,
à plus d'égalité du point de vue économique, plus d'horizontalité dans le pouvoir, au respect du droit des minorités, etc. Pour l'instant, ces valeurs ne trouvent pas à s'incarner. C'était aussi un des enjeux de la présidentielle. Quand on parlait de la présidentielle avant qu'elle se déroule, on disait que c'est un des enjeux, parce que pour toute une série d'électeurs, ils ne trouvent pas sur le marché politique de quoi satisfaire ce qui sont leurs aspirations. Et là, pour l'instant, il y a un désajustement, sans doute. Alors peut-être qu'à un moment donné, l'ajustement va se faire. Bon, mais c'est vrai que là, on a des vieux politiciens quand même, hein. Il y a un problème, un réel problème d'incarnation, enfin de qui pourrait porter un programme qui soit politiquement à la hauteur de cette demande d'égalité, de redistribution, d'horizontalité du pouvoir, etc. Il y aurait peut-être des jeunes femmes ou des jeunes hommes ou des non-binaires qui se reconnaîtraient dans une candidature féministe, mais faudrait-il encore qu'il y en ait une ? Je pense que c'est aussi ça qui empêche cette constitution d'un vote conscient féminin, sans doute, malgré les mouvements sociaux.
Le droit de vote a été acquis de haute lutte par des militantes au courage et à la détermination extraordinaire. Et pourtant, aujourd'hui, on traîne parfois des pieds parce que les candidates, les candidats ne font pas toujours rêver. Le risque, c'est que le serpent se morde la queue. Si les femmes féministes se désintéressent des urnes, comment vont émerger des figures qui donnent envie de voter ?
L'offre politique reflète la société, celle des plus de 60 ans, fidèles au bureau de vote. Alors que la nouvelle génération de votants, plus abstentionniste, est marquée par de nouveaux combats.
Vous pouvez dire d'un certain point de vue, alors sans doute dans les jeunes générations, donc les jeunes femmes et même parfois les très jeunes filles qui vont devenir des électrices, qui ne sont peut-être pas encore, et qui sont d'emblée dans la vague MeToo ou actuellement dans les histoires de collage, etc., contre les violences, puisqu'on parle de violences. Ces jeunes femmes-là, sans doute, seraient capables de penser à nous les femmes, à nous les femmes éventuellement intersectionnelles, d'ailleurs, souvent sûrement intersectionnelles, Mais en face, il n'y a pas de candidate qui se présente comme telle.
La relève sur le climat, sur l'égalité viendra des jeunes.
Les 18-24 ans ont une opinion, parce qu'ils sont plus sensibilisés à l'environnement, parce que contexte, etc., rapport du GIEC, tout ça, ils sont plus sensibilisés. Mais ce n'est pas quelque chose qui va changer dans le temps, donc ça veut dire que quand ces 18-24 ans passeront dans la tranche 25-35 ans, ben en fait, ça va comme ça, je sais pas comment dire, remonter les catégories, et donc leurs enfants seront éduqués dans la c'est important l'environnement, et donc ainsi de suite. Et donc là, on a ce qu'on appelle un peu grossièrement un remplacement générationnel. C'est-à-dire que l'opinion n'est pas qu'une opinion d'âge, c'est une opinion de génération. Et après, on a d'autres thématiques. Alors, le droit des femmes, j'espère que ça sera comme pour l'environnement, je pense quand même, mais après, quand ils passeront dans la tranche d'âge d'après, ils se rangeront dans l'opinion majoritaire. Donc c'est deux dynamiques qui peuvent exister dans l'opinion, qui structurent l'opinion de manière différente.
Car le grand remplacement, en politique, ce sont les millennials qui peuvent le réaliser en glissant un bulletin dans l'urne.
Généralement, on voit que l'environnement et la question du sexisme, de la lutte pour le droit des femmes, c'est des thématiques qui réagissent un petit peu de la même manière, qui sont un petit peu liées, surtout avec les mouvements maintenant qu'on voit, le wokisme, etc., où tout est un petit peu mis dans une globalité, c'est une vision globale de la société, c'est pas que un enjeu qui est porté. Donc je pense que il peut y avoir justement ce remplacement générationnel qui va se produire, et donc le vote des 18-25 ans d'aujourd'hui sera le vote demain des 65 ans et plus, et donc sera un vote où le droit des femmes sera peut-être plus important que maintenant.
Les législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Est-ce que les femmes voteront pour elles-mêmes ou pour les hommes? Cette nouvelle assemblée sera-t-elle paritaire? Viendra-t-elle à bout des violences sexuelles au sein du Palais Bourbon et dans la société tout entière?
Saura-t-elle embrasser la nouvelle grande cause du quinquennat?
La grande cause du prochain quinquennat, si les Françaises et les Français me font confiance, ce sera l'égalité femmes-hommes encore.
Encore et toujours, n'oubliez pas,
il n'y a pas mort d'homme.
Merci à Fiona Texer et Hélène Goutani pour cet épisode de Y'a pas mort d'homme. Toutes les sources citées et bien d'autres références bibliographiques sont à retrouver sur le site de Binge Audio, binge.audio. Par ailleurs, Fiona et Hélène sont disponibles sur Instagram si vous voulez échanger avec elles. Leur alias, c'est @Hélène-Goutani et @Fiona-Tex. Cet épisode a été réalisé par Elisa Grenet. Y'a pas mort d'homme, c'est à retrouver tous les mois dans Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les précédents comme les prochains, sont et seront à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.